Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
L'audace des humbles parcourt avec 10 personnages bibliques, c'est le chemin spirituel que nous propose de suivre aujourd'hui l'invité de Radio Présence. Moïse, Judith, Marie-Madeleine et Simon-Pierre et tant d'autres sont ces personnages bibliques qui peuvent devenir nos compagnons de route, des guides pour devenir des témoins audacieux du Christ. Bonjour François Domar.
Bonjour Isabelle, bonjour aux éditeurs.
Merci de votre présence ce matin. Alors après, vous êtes déjà venu à Radio Présence puisque vous aviez écrit ce livre « La famille creuset de nos richesses ». Et c'est maintenant votre deuxième ouvrage qui est consacré à 10 personnages bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament que vous nous présentez ce matin. Il s'intitule « L'audace des humbles ». Quelques mots pour vous présenter avant de découvrir ce cheminement. Vous êtes marié, père et grand-père, agriculteur en Haute-Garonne. Passionné par la parole de Dieu, vous animez des groupes de partage biblique et vous êtes membre avec votre épouse de la communauté Réjouis-toi. Et vous accompagnez aussi des sessions Agapé. Voilà, j'ai fait un petit résumé. J'espère que tout est bon. François Dromard, vous êtes parti à la rencontre des personnages bibliques. Qu'est-ce que vous avez découvert grâce à eux?
Alors en fait, si vous voulez, je crois comme beaucoup de personnes, j'ai ouvert la Bible et en particulier l'Ancien Testament. Et j'ai été assez vite découragé par la complexité, par la violence un peu de tout ce qui nous est raconté. Et donc j'ai adopté un peu une manière tout à fait personnelle, celle de rechercher un peu des éléments sur des personnages. Et pour moi, ça a été une aventure passionnante. D'essayer de rassembler tous les éléments qui nous sont donnés sur tel ou tel personnage. Et du coup, j'ai pu avoir une certaine proximité, une certaine même complicité, d'une certaine
comme
manière, avec ces personnages. Et ça a été pour moi une aventure passionnante.
Ah, une aventure passionnante et qu'on retrouve bien justement dans votre ouvrage. Alors, vous avez choisi, François Dromard, 10 personnages bibliques, Moïse, David, Jonas, Élie, Judith, Jean-Baptiste, Joseph, Marie-Madeleine, Simon-Pierre et Jean. Il y en a 5 dans l'Ancien Testament, 5 dans le Nouveau. Et vous avez trouvé que l'audace pourrait être un lien entre eux. L'audace, c'est la passion de l'action pour affronter un danger ou réagir à une injustice. Et comme l'explique le père Michel Martin Prével, l'audace se situe au milieu entre timidité, couardise, lâcheté, peur d'un côté et de l'autre côté, la bravoure, le courage, la témérité, voire la colère ou l'agressivité. Pour être une vertu, l'audace doit être mesurée par la raison et se rattacher à la vertu de force. Quelles sont pour vous les caractéristiques communes de ces 10 personnages bibliques qui vous permettent de dire qu'ils sont audacieux?
Alors en fait, il faut que je vous avoue que j'ai d'abord fait un peu la recherche sur ces personnages. Mm-hmm. Ce n'est qu'après que j'ai essayé de voir quel était le lien que j'allais un petit peu mettre en exergue pour relier ces personnages. Et j'ai découvert que l'audace, elle s'illustrait de manière très différente en fonction des personnes. Et on voit que pour certaines personnes, l'audace est naturelle. Et elle va être souvent purifiée et elle va évoluer en fonction des événements que le personnage va vivre. Et puis, il y en a d'autres qui ont une audace qui n'est pas naturelle, mais qui devient vraiment un don spirituel et qui devient une vertu donnée par le Seigneur.
Et cette audace, finalement, c'est, comme vous l'écrivez dans le livre, elle implique une grande liberté et elle est le signe de grands désirs.
Oui, je pense que l'audace nous apparaît comme une vertu presque secondaire. Et pourtant, dans l'évangélisation, un témoin qui n'aurait pas d'audace ne serait pas très, très longtemps. Et donc, oui, je pense qu'il faut quand même du courage et de l'audace pour être disciple du Christ.
Vous faites le lien dans votre livre entre audace et humilité. On pourrait se dire que justement, c'est pas forcément deux vertus qui se marient bien. Comment elles peuvent aller de pair, ces deux vertus?
Alors effectivement, au premier abord, on a un peu l'impression que ce sont deux vertus contradictoires parce que l'humilité est une attitude qui justement implique un retrait, de s'abaisser, de se mettre à l'écart, alors que l'audacieux est quelqu'un qui se met un petit peu en avant. Et quand on qualifie quelqu'un d'audacieux, on a très vite fait de le considéré un peu comme prétentieux, donc pas très humble. Et pourtant, je pense qu'il y a une audace qui est remplie d'humilité, parce que justement, elle est liée aussi à la confiance que l'on fait et de tout remettre entre les mains du Seigneur.
Ouais, et on va le voir avec les quatre personnages que nous avons choisis pour cette émission, combien cette notion de confiance est importante.
Hein. Absolument. Mmh.
Alors, nous avons donc sélectionné deux personnages de l'Ancien Testament et deux du Nouveau. Le premier, c'est Moïse. Vous écrivez que lui n'est pas audacieux. Et c'est justement ce que vous nous disiez en introduction. Ouais. Comment le devient-il ?
Alors, en fait, Moïse n'est pas un meneur d'hommes. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il est appelé par le Seigneur, va très vite un peu regimber et discuter avec. C'est d'ailleurs très, très amusant de voir cette relation que Moïse établit avec le Seigneur en lui disant « tu pourrais peut-être choisir quelqu'un d'autre, je ne sais pas parler ».
Il ne se sent pas à la hauteur, en fait.
Et il ne se sent pas à la hauteur, donc il y a une grande humilité. Et Moïse va quand même suivre l'appel du Seigneur. Et il y a ce petit épisode qui est quand même assez intéressant. Moïse a un bâton. Et donc Dieu lui dit jette le bâton par terre et le bâton se transforme en serpent. Donc Moïse est effrayé et Dieu lui dit touche la queue du serpent.
Et la foi est audacieuse pour le coup.
Le serpent redevient un bâton. Tout cela pour dire que Moïse comprend que ce n'est pas par ses propres forces qu'il va pouvoir répondre à l'appel du Seigneur, mais que grâce à ce bâton qui symbolise un peu la présence du Seigneur, il va guider son peuple, mais c'est le Seigneur qui va l'aider.
Alors, il y a quatre étapes dans la vie de Moïse, l'esclavage en Égypte, la libération, la traversée du désert et l'entrée dans la terre promise. Vous avez souhaité dans votre ouvrage que chacun de ces personnages bibliques nous guide dans notre propre parcours. Si vous voulez bien, on va reprendre chacune de ces quatre étapes et voir comment elles peuvent nous éclairer dans notre vie spirituelle. Alors, on va commencer par l'esclavage en Égypte. Qu'est-ce qui se passe et comment cette expérience que fait Moïse et le peuple hébreu va nous, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter?
Alors, cette première étape est je crois, fondamentale, c'est l'expérience de l'esclavage. Est-ce que dans nos propres vies, on a le sentiment d'avoir besoin d'être sauvé. Je fais partie aussi d'une petite équipe de préparation au baptême et souvent j'interpelle les jeunes parents en leur disant « Est-ce que vous avez la conviction d'avoir besoin d'être sauvé ?» Et donc à ce moment-là, un chemin est possible. Et moi, je crois beaucoup au cri. Voilà. Et le Seigneur répond en disant « J'ai entendu le cri de mon peuple et je suis venu pour le libérer. » Donc cette première étape me semble essentielle, c'est vraiment de crier vers le Seigneur en reconnaissant que quand on est au fond du trou, il n'y a plus que ça à faire, de crier
oui,
au secours.
Mais à l'inverse, quand tout va bien, on n'a pas forcément on ressent pas forcément ce besoin d'être sauvé.
Et oui, malheureusement, je pense qu'on est obligé de reconnaître que c'est l'épreuve, la souffrance, la difficulté qui nous aide, qui nous pousse à se tourner vers le Seigneur.
Mmh. Ou au moins une plus grande conscience de notre propre péché,
oui.
Indépendamment d'une situation de souffrance ou d'épreuve qui nous fait prendre conscience aussi qu'on a besoin d'être sauvé.
Absolument.
Oui. La deuxième étape dans la vie de Moïse, c'est cette libération, le passage de la mer Rouge, le passage de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie.
Alors là, On évoque indirectement le baptême, hein,
oui.
ce passage de la mer des roseaux, de la mer rouge, qui est une descente et puis une remontée qui déjà préfigure la mort et la résurrection du Christ. Et donc, il y a cette libération qui, d'une certaine manière, est quand même une libération qui ne reste un peu qu'extérieure. Les Hébreux sont libérés, ils quittent la terre d'esclavage, mais avant d'arriver dans la terre promise, ils sont dans un désert. Et là, on arrive dans cette troisième étape où le Seigneur veut éduquer son peuple et il veut lui apprendre la confiance. Et là, on s'aperçoit que le peuple hébreu a la nuque raide.
Oui.
Là, on peut aussi faire le lien aussi avec nous. On s'aperçoit qu'on retombe toujours dans nos mêmes travers. Et là, il y a plein d'épisodes passionnants qui montrent que le peuple a besoin d'être corrigé, d'être purifié par le Seigneur pour pouvoir avancer.
Oui, parce que ce peuple se plaint, ce peuple murmure contre Dieu. Il préfère la sécurité à la liberté. Et voilà. Et nous, on peut aussi être tenté par cette sécurité.
Ça, c'est, je pense, une grosse question. Et on s'aperçoit quand même que ces Hébreux regrettent d'une certaine manière les marmites de viande, les melons, les courges, voilà, qu'ils avaient en Égypte. Donc, est-ce que parfois, nous n'avons pas tendance à rechercher la sécurité plutôt que la liberté? La liberté nous déstabilise et nous oblige à être
d'inconnu.
Un petit peu dans l'inconnu. Alors que la sécurité, et donc on préfère parfois la cage dorée plutôt que la liberté.
Et vous expliquez à très juste titre dans votre livre qu'il a bien fallu 40 ans dans ce désert pour que le peuple hébreu puisse être apprivoisé et puis puisse faire confiance à Dieu.
Oui, et puis là aussi, on voit tout à fait l'audace de Moïse qui va persévérer et qui va rester fidèle jusqu'au bout. Il ne va pas se décourager, même si à chaque fois il se tourne vers le Seigneur en disant « Mais qu'est-ce que tu m'as donné comme peuple ?» Voilà, il revient sans cesse. Et je pense qu'on peut évoquer cet épisode que tout le monde connaît de la manne, mais qui montre bien combien le Seigneur veut apprendre à son peuple à lui faire confiance. Il donne du pain, mais ce pain, il est donné aujourd'hui, pour chaque jour. Et les petits malins qui essayent de garder un peu de manne, ils s'aperçoivent que ça moisit tout de suite. Et donc, il faut refaire chaque jour cet acte de foi, de dire « Seigneur, tu nous nourris, tu nous apportes ce dont nous avons besoin, mais nous avons à refaire cet acte de confiance.
» Et c'est ce que fait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dans un de ses poèmes. Elle dit « Rien que pour aujourd'hui. »
Ouais. Oui, tout à fait.
Donc là aussi, une prise de conscience pour nous, chrétiens, de ce don que Dieu fait au quotidien.
Oui, absolument.
Et donc demander pour chaque jour la grâce.
Pour chaque jour, en reconnaissant que nous avons toujours à faire et à refaire cet acte de foi.
Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Autre épisode de Moïse, c'est cette bataille contre les Amalécites où Moïse a les bras levés, soutenu par Aaron et Hur. Dieu agit, mais finalement, il a besoin aussi du concours des hommes et de cette communauté.
Alors ça, c'est un épisode que j'aime beaucoup, moi, personnellement, et qui me nourrit. Les Hébreux, en entrant dans le désert, s'aperçoivent que ce désert est habité et ils sont confrontés à une bataille. Et donc, Dieu va dire à Moïse, monte sur la colline, dis à Josué de combattre, et toi, lève les mains vers moi et prie. Et il y a cette belle image donc de Moïse qui lève les bras, et chaque fois qu'il a les bras levés, les Israélites sont victorieux. Et puis la fatigue aidant, les bras baissent, et là les Amalécites prennent le dessus. Et il y a donc Hur et Aaron qui viennent pour le soulager, qui viennent amener aussi un rocher, donc qui lui permet de s'asseoir. Et là aussi, on peut voir la préfiguration du rocher qu'est le Christ. Moïse s'assoit et, soutenu par la prière des frères, il tient jusqu'à la fin du jour et donc il obtient le combat. Et je crois que pour notre prière personnelle, moi j'ai l'habitude le matin de commencer en me tournant vers le Seigneur, en levant les bras, et je m'aperçois qu'en vieillissant, le temps d'un Notre Père, les bras commencent à être lourds. Et voilà, donc c'est un petit exercice de foi et de persévérance pour rappeler que voilà, c'est par la prière qu'on obtient la victoire à tous nos combats.
Et puis la prière aussi communautaire, hein, avec les autres.
Et qu'on ne peut pas vivre notre foi tout seul.
Voilà. D'où l'importance de l'Église. Ouais. Alors, dernière étape avec Moïse, c'est l'entrée dans la terre promise. Vous écrivez, François Dormard, que cette conquête est un combat entre ce qui est et ce qui sera.
Oui, parce que... Alors, je pense que quand on évoque ces différentes étapes, il ne faut pas les voir de manière simplement chronologique, parce que on peut être de temps en temps en terre promise et puis après revenir en esclavage et puis après se retrouver dans le désert. Donc, ce sont des étapes qui ne sont pas à vivre de manière chronologique. Mais nous sommes... Nous avons déjà, c'est ce que nous dit Jésus, le royaume de Dieu est là, il est déjà là. Effectivement, il n'est pas complètement là. Donc il y a cette notion de déjà là et de pas encore. Donc il y a un théologien allemand qui prend l'exemple de la Seconde Guerre mondiale et de l'intervention des forces alliées, du débarquement. Voilà, qu'il nomme le jour J, le jour de la victoire. Mais ce jour-là, la paix est déjà là, mais il va falloir attendre quelques années encore pour que l'armistice soit signé. Donc, dans notre vie spirituelle, notamment quand nous sommes à l'Eucharistie, nous sommes dans le déjà là du royaume. Nous participons à notre vie éternelle qui commence déjà dès ici-bas, mais elle ne sera effective vraiment que il y a cette notion de pas encore dans notre quotidien que l'on ressent.
Et donc ce royaume de Dieu, c'est la terre promise, c'est cet endroit où les Hébreux étaient, mais pas encore. Ça reste une promesse.
Voilà, oui, absolument.
Oui. On va rester dans l'Ancien Testament et partir à la découverte de Judith. Judith, c'est une femme juive et veuve, sans enfant. Elle a des grands moyens. Elle va s'engager pour libérer son peuple de la tyrannie du roi Nabucodonosor. Les Israéliens sont encerclés et privés d'eau. Ils sont prêts à se livrer à leur ennemi. Et là, Judith ne le voit pas du tout de cet œil-là. Elle se fait belle pour séduire le général Holoferne. Et après plusieurs petites manigances, elle parvient à lui trancher la tête sans toucher à son honneur à elle. Les Israélites sont, grâce à elle, libérés. Qu'est-ce que cet épisode peut nous enseigner aujourd'hui ?
Alors, cette femme est une femme qui a une audace folle.
Ah oui.
Elle ne se résigne pas. Ce que je voudrais souligner, c'est que devant... la situation où Nabucodonosor et son armée arrivent tout autour d'Israël et exterminent avec une violence atroce tous les peuples voisins. Et donc, ils sont effrayés et ils voient arriver Nabucodonosor qui extermine tout, qui pille et qui veut se faire adorer comme un dieu. Et donc, les anciens sont prêts à se dire il vaut mieux être esclave plutôt que de perdre la vie.
À nouveau.
Et Judith, là, va se lever en disant mais nous avons un Dieu. Nous ne connaissons pas d'autre Dieu que lui. Aussi, nous pouvons espérer qu'il ne nous regardera pas avec dédain et qu'il ne se détournera pas de nous.
Elle a une grande foi en Dieu.
Il y a une grande foi et elle décide de faire quelque chose. Et elle va aller dans le camp de l'ennemi. Et alors, il y a ce passage qui, moi, m'a posé pas mal de questions. Ce fait de revêtir sa robe d'apparat, de se parfumer, de se faire la plus belle possible, de revêtir ses bijoux et d'aller chez l'ennemi. Et en recherchant, j'ai trouvé un passage dans le livre de Ben Sirac qui dit « Si tu poursuis la justice, tu l'atteindras. » Tous les mots sont importants.
Ouais.
« Tu t'en revêtiras comme d'une robe d'apparat. » Et donc, en fait, quand elle revêt cette robe d'apparat, elle revêt la cuirasse de justice. Elle sait qu'elle suit un acte de justice et elle part en gagnante. Et c'est pour ça qu'elle va et qu'elle y va avec non pas simplement pour séduire et pour mais sa beauté, elle reflète la beauté de Dieu.
Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ce que vous écrivez dans votre ouvrage. Alors, je vous propose qu'on marque une pause. On va tenir nos auditeurs en haleine pour voir comment cette action de Judith de s'être revêtue de la beauté de Dieu et de cette cuirasse de justice, comment elle arrive à ses fins et puis ce que ça peut nous dire aussi, nous, dans notre vie spirituelle. Nous écoutons Mendier, interprété par Célébration, et je vous donne rendez-vous juste après, François Domard.
Thank you.
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
L'audace des humbles parcourt avec 10 personnages bibliques. C'est le chemin que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui avec François Dromard, auteur de cet ouvrage, aux éditions Encre-Toile. Nous avons vu en première partie, vous nous avez parlé, François Dromard, de Moïse, et nous avons commencé à parler de Judith, et nous allons poursuivre avec cette femme audacieuse, puisqu'elle a confiance en Dieu, elle ne se résout pas à laisser son peuple devenir esclave du roi Nabucodonosor. Quelle est précisément sa prière ?
Alors, ce qui m'a touché en lisant le texte, je me suis aperçu que, bon, elle est dans un véritable combat, elle est dans une situation quand même d'extrême danger au moment où elle est avec Holoferne et où elle s'apprête à lui couper la gorge. Mmh. Et là, il y a comme un arrêt sur image. À un moment donné, elle s'arrête avant de... et elle se tourne vers le Seigneur pour lui demander de fortifier son bras. Et elle va suivre un peu l'appel du Seigneur. Et il va y avoir aussi après un hymne de louange que Judith va proclamer pour bien montrer que c'est la victoire du Seigneur et non pas la sienne. Mmh. Parce que les anciens vont la louer, la remercier, mais c'est vraiment une action de grâce pour le Seigneur avant tout.
Et de fait, le peuple va vraiment rendre grâce au Seigneur.
Au Seigneur,
ouais, absolument. Donc, il a bien compris la leçon quand même. Explorons maintenant les deux personnages du Nouveau Testament que nous avons choisi, Simon-Pierre et Marie-Madeleine. Alors, Marie-Madeleine, c'est la pécheresse pardonnée, elle a répandu du parfum sur les pieds de Jésus. Elle pourrait être aussi la sœur de Lazare et de Marie. Et enfin, nous la retrouvons au pied de la croix et elle est la première à se rendre au tombeau au matin de Pâques. Vous avez fait le choix, François Dromard, de rassembler ces trois femmes en une seule. Audace, fidélité, amour, c'est ce qu'elles ont en commun. Quel exemple pouvons-nous retirer de ce chemin, de cette femme? Et puis, quel exemple on peut retirer pour notre chemin spirituel?
Alors, c'est aussi une femme, moi, qui m'a beaucoup passionné, et de réaliser que lors de ces quatre épisodes où elle intervient dans l'Évangile, on s'aperçoit qu'elle est toujours au pied de Jésus.
C'est vrai.
Que ce soit donc au moment de l'onction, au moment de Béthanie avec sa sœur Marthe, au pied de la croix, au moment de la mort de Jésus, et à la résurrection, enfin dans l'iconographie, on la représente souvent au pied de Jésus. Mmh.
Le jardinier, entre guillemets.
Voilà, mmh. Qui se présente à elle. Et là aussi, en cherchant, j'ai réalisé que le fait d'être au pied d'eux, ça veut dire être disciple. Lorsque saint Paul se présente dans les Actes et dans le livre des Galates, Paul se présente comme étant au pied de Gamaliel, comme disciple de Gamaliel. Et donc, dans l'épisode de Marie-Madeleine à Béthanie, lorsque sa sœur lui demande, demande à Jésus, mais dis-lui de venir m'aider.
Elle lui reproche de ne pas faire le service.
Jésus va lui dire, elle a choisi la meilleure place. Laquelle ? Celle d'être au pied de Jésus. Et Marie, quelque part, a une audace folle, c'est de se présenter comme disciple. C'est elle qui fait le premier pas. Et Jésus va être admiratif, hein, comme au moment de l'onction où il va dire, partout où sera proclamé l'Évangile dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle a fait. Donc, je trouve que c'est une femme qui est remplie d'audace, mais une audace remplie d'amour. Mmh. Et ça, c'est quand même assez impressionnant de voir que cette femme devient aussi l'apôtre des apôtres.
Oui, c'est ça, témoin de la résurrection.
Elle est témoin de la résurrection, oui. et elle va, quelque part, bousculer un petit peu les disciples pour les inviter à proclamer que Jésus est ressuscité.
Et dans les quatre épisodes de cette femme, de Marie-Madeleine, les sens sont conviés.
Oui, absolument.
Qu'est-ce que ça peut nous dire sur notre relation à Dieu ?
Absolument. Je crois que notre relation, elle est d'abord dans notre vie quotidienne et elle est dans notre chair et elle passe aussi par les sens. Alors, Marie-Madeleine, voilà, nous invite vraiment à présenter notre amour envers le Seigneur aussi à travers nos sens. Voilà. Et ce geste du parfum, c'est vraiment le geste gratuit par excellence. Le parfum, c'est quelque chose qui s'évapore, qui répand sa bonne odeur et qui ne sert à rien.
Et qui est éphémère.
Qui est éphémère. Voilà. Et qui pourtant fait la joie de Jésus.
Oui. Et il y a aussi cette particularité chez Marie-Madeleine, c'est sa fidélité, parce que vous le disiez, elle est au pied de Jésus. Et jusqu'au pied de Jésus sur la croix et à la résurrection.
Jusqu'au bout. Et elle va aussi se laisser corriger, purifier dans sa relation, puisque au moment de la résurrection, enfin au moment du tombeau, elle cherche un mort plutôt qu'un vivant. Et donc Jésus va l'appeler par son nom et va l'inviter à
une conversion.
À une conversion.
Qu'est-ce que ça peut nous dire sur notre place dans la communauté chrétienne ou sur notre mission de chrétien dans le monde ?
Moi, je pense que nous avons à essayer d'être un peu plus audacieux, à accepter on va peut-être le voir après, mais de quitter notre barque pour marcher sur l'eau. Voilà, pour quitter nos sécurités, pour nous laisser surprendre.
Et alors voilà, justement, vous parlez de barque, et donc ça nous fait penser à Pierre, Simon Pierre. Vous, avec Marie-Madeleine, vous les considérez tous les deux comme proches de nous, familiers. Vous écrivez qu'ils nous aident à aimer Jésus comme eux, pas à pas, dans le quotidien de nos vies, jusqu'à donner notre vie pour lui. Et c'est vrai que Jésus fait preuve d'une pédagogie très fine, comme avec nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce lien ?
Alors en fait, quand j'ai travaillé les personnages du Nouveau Testament, je me suis aperçu que, contrairement à l'Ancien, on avait assez peu d'éléments. Et le personnage sur lequel nous avons le plus d'éléments, c'est pour Pierre. Voilà. Et encore, il n'intervient finalement qu'on a quatre épisodes dans la vie de Jésus. On a aussi après les actes des apôtres qui montrent bien aussi
toute la place qu'il prend.
Voilà, le avant et le après. Et ça, c'est très intéressant pour le personnage de Pierre. Et le personnage de Pierre, je trouve, est très, très attachant parce qu'il nous rejoint. Il incarne notre condition humaine. Voilà, c'est un Méditerranéen, il est spontané, il est très réactif. Voilà. Et il a une audace naturelle, mais une audace qui lui joue des tours.
Oui, par exemple, quand il va marcher sur les eaux, quand il appelle Jésus à... Enfin, quand il veut rejoindre Jésus qui marche sur les eaux.
Alors, cet épisode est très intéressant, justement, au niveau de l'audace, parce qu'il faut d'abord réaliser que Jésus ne lui a rien demandé.
Oui. C'est ça.
Il vient et il s'apprête à rejoindre ses disciples et sans doute à monter dans la barque. Et là, Pierre intervient en disant, mais si c'est bien toi, dis-moi de te rejoindre sur l'eau. Et donc, Pierre quitte sa zone de sécurité et enjambe la barque pour sortir et mettre les pieds sur l'eau. Et on peut imaginer cette scène, enfin, de voir Pierre complètement les yeux fixés sur Jésus qui se met à marcher sur l'eau. En se souvenant là, entre parenthèses, que marcher sur l'eau, c'est marcher sur le mal. La mer était un petit peu la zone de ténèbres, la zone du mal. Donc Jésus est plus fort que le mal. Et Pierre, voilà, à l'audace de se dire, bah, oui, pourquoi pas moi aussi, avec Jésus. Et puis, on peut s'imaginer qu'avec la force du vent, il tourne son regard. Et là, à un moment donné, whoop, et hop, au secours.
Oui.
Oui. Au secours. Et là, aussitôt, Jésus tend la main et le relève. Hein, homme de peu de foi, voilà.
Oui, hein. C'est ça. Et ouais. Puis évidemment, vous disiez que Pierre était proche de nous, non seulement par son reniement, son triple reniement, puis aussi son triple oui, où il dit au Christ qu'il l'aime.
Oui. Alors ce passage-là que nous avons eu dimanche dernier est magnifique. C'est vraiment un échange d'amour. Là, je reprends un peu ce que dit Marie-Noël Tabut à propos de ces trois termes. Hein, en français, on a qu'un seul terme. En grec, il y a l'amour eros, l'amour sensible, l'amour philia et l'amour agapé. Et donc, Jésus va demander à Pierre, m'aimes-tu d'agapé, m'aimes-tu complètement? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour moi? Et Pierre va répondre, je t'aime de philia, tu sais. Voilà. Et puis, Jésus repose la question une seconde fois. Voilà. Et puis, la troisième fois, c'est Jésus qui s'abaisse, qui se met au niveau de Pierre et qui lui dit, m'aimes-tu de philia? Et là, Pierre... voilà, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Et là, on voit que Pierre se souvient de ces trois reniements. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est là, à ce moment-là, que Jésus lui dit « Sois le berger de mes brebis ». C'est-à-dire que tu ne pourras pas te reposer sur tes propres forces. Tu as fait l'expérience de ta faiblesse, de ta fragilité, mais tu peux compter sur moi et je suis ton rocher. Et c'est Pierre qui va devenir le roc
de l'Église.
Le berger de l'Église.
Est-ce à dire qu'il faut faire l'expérience de sa propre fragilité pour rentrer dans un amour plus entier avec le Christ?
Absolument. Ouais. Je pense que voilà, la connaissance de soi et la connaissance de ses blessures est indispensable. Parce que sinon, on reste avec notre carapace, avec nos mécanismes de défense. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait à propos de la liberté et de la sécurité. Mmh. Parfois, notre carapace, on l'aime bien parce qu'elle nous rassure.
Oui.
Et donc, pour pouvoir... acquérir une véritable libération, il faut accepter de se dénuer.
De briser cette carapace.
De briser cette carapace.
Ouais, de laisser la lumière y pénétrer. Vous concluez votre ouvrage, François Daumard, par cet encouragement à revenir au texte biblique. À l'école de ces personnages, vous invitez à retrouver le cœur ardent et l'audace qui les animait.
Pour moi, ça a été vraiment une expérience très passionnante de travailler sur ces personnages, d'en faire vraiment des compagnons de route. Voilà. Si en lisant ce livre, ça donnait envie de relire les passages bibliques, voilà, j'aurais gagné mon objectif. Je regrette un petit peu que dans l'Église, on n'insiste pas assez sur la parole de Dieu. Parce que c'est vraiment un trésor. J'ai aussi, vous le disiez en m'accueillant, que je participe à un petit groupe d'animation biblique. C'est une joie profonde de partager avec d'autres la parole de Dieu. Chacun donne une vision et on s'enrichit et on trouve vraiment une nourriture indispensable à notre foi.
Il n'y a pas un risque d'entre-soi?
Non, parce que je pense que la parole nous bouscule. Elle nous oblige à nous déplacer. La parole de Dieu...
Puis elle est vivante.
Oui, elle est vivante.
Elle est vivante. Merci beaucoup, François Dromard. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, L'audace des humbles, parcours avec 10 personnages bibliques aux éditions Encre-Toile, un livre que Radio Présence vous fera gagner tout au long de cette semaine. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.